Think Tank.
Zinnlustig.
Reflexion. Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport à Obtenst.
Euradio Nantes, en partenariat avec Audencia, vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bonjour, Euradio Nantes, en partenariat avec le think tank Sport et Citoyenneté pour notre émission mensuelle avec Audencia Business School et le master spécialisé Management des organisations du sport d'Audencia. Oui, c'est l'émission de Sport et Citoyenneté en partenariat avec Audencia. J'ai dit l'inverse, mais je vous assure qu'on est en plein après-midi, qu'on n'est pas le soir après un dîner arrosé. Et pourtant, déjà, Marlène Sisley qui commence à s'endormir, l'émission démarre très très fort aujourd'hui. Je vais essayer de l'introduire en parlant quand même d'un sujet grave, l'accompagnement, la reconversion des sportifs de haut niveau. Une émission qui fait suite à notre dernière émission sur la formation et l'éducation des sportifs de haut niveau. Amandine, pouvez-vous nous présenter nos brillants invités qui, je l'espère, vont être très virulents aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Alors en plateau, nous avons avec nous Stéphane Maisonna, le directeur des masters spécialisés d'Audencia, Florence Guillotel, professeure associée à Audencia, qui est également co-organisatrice du triathlon Audencia La Baule, enfin qui a été de 2008 à 2012, également cadre technique régionale Île-de-France pendant 14 ans. Nous avons avec nous Younsan Meas, qui est le président du CROSS des Pays de la Loire. Le CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif. Nous avons également Marlène Sizlik, ancienne championne du monde de boxe française.
Jusqu'en novembre 2014, je suis encore championne du monde en titre, s'il vous plaît.
Ouais.
Pardon, donc Marlène Sisley, championne du monde.
Tu l'entends tellement après ancienne championne du monde que là,
regarde.
Elle dégaine encore. Hyper cut direct.
KO direct.
Amandine Luce, c'est KO. C'est bien.
Nous aurons également deux invités par téléphone, Pierre Maire, qui est le président du fonds de dotation Mécène Élite Anjou, et Olivier Bloudot, délégué territorial d'Opcalia.
On aura aussi David Rank, je pense, expert de sport et citoyenneté, qui nous fait l'honneur d'intervenir aussi sur ce sujet. On démarre en s'amusant et c'est bien, mais évidemment, c'est pas un sujet facile et c'est pas un sujet toujours très marrant, en particulier pour les sportifs de haut niveau. J'ai vraiment l'impression que le sportif de haut niveau se retrouve dans un labyrinthe, dans une complexité extrême pour se faire accompagner lors de sa carrière. Et puis après, tout d'un coup, ça s'arrête. Il y a véritablement une mort. Et Marlène, peut-être que le fait de rappeler aussi que vous êtes championne du monde, c'est peut-être une petite peur. On essaiera d'en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples de reconversion quand même difficiles. Alors, il y a quand même des initiatives, et en particulier en Pays de la Loire. On a remarqué, peut-être que dans cette région, les choses se font différemment, qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient investis et aussi avec des aides, parce que finalement, le sportif de haut niveau, il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé par des organisations, il a besoin d'être formé, il a besoin d'être aidé financièrement. Et on va tout de suite commencer, avant d'expliquer un peu ce système, avec Olivier Bloudot, qui nous a rejoint aujourd'hui par téléphone. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors Olivier...
Je vois que vous êtes en forme.
On est en forme. Olivier, vous allez nous parler un petit peu de ce que fait Opcalia, à un niveau national, mais en particulier dans les Pays de la Loire.
D'accord. Juste pour resituer ce qu'est Opcalia, on est organisme paritaire, créé en 2006, du paritarisme, j'entends bien, syndicat de salariés plus représentants des entreprises. Et notre métier premier était de financer la formation des salariés d'entreprise sur la base de cotisations versées par nos entreprises adhérentes, de toute taille. Et nos missions ont évolué depuis quelques années, et surtout au gré de réformes successives. Et aujourd'hui, c'est une quarantaine de branches et secteurs d'activité qui sont partenaires d'Opcalia, dont le secteur du sport. Alors bon, si je vous donne quelques chiffres sans vous barber, 95 000 entreprises sont adhérentes chez nous au niveau national, ça représente grosso modo 3 millions de salariés. On collecte aujourd'hui 650 millions d'euros de fonds et on finance 850 millions de formations grâce hein, le Delta, hein, grâce à des cofinancements. Donc nos missions se sont développées au fil des années, et aujourd'hui, je veux pas réduire un peu les missions qu'on effectue, puisqu'elles sont très très larges, mais si je résume, notre boulot, c'est de développer la formation dans les entreprises. Hein, développer la formation dans l'entreprise, hein, ça veut dire de faire en sorte que l'entreprise fasse de la formation pour ses salariés. C'est de financer la formation des demandeurs d'emploi, ce qui sont des missions un peu nouvelles pour nous. C'est évidemment d'aider ces entreprises dans le cadre de leur recrutement et de les accompagner dans leurs projets de développement stratégique, hein, principalement en lien avec les compétences et les ressources humaines en règle générale, quoi.
Alors Olivier, le sportif de haut niveau, comment il s'intègre dans ce système? Et est-ce que finalement, je vais peut-être me fâcher avec Yunsan, c'est jamais arrivé mais ça pourrait arriver, est-ce que finalement vous venez pallier un petit peu des défaillances du mouvement sportif, de l'État, des services déconcentrés,
non, absolument pas, absolument pas.
Ah, je vais pas me fâcher avec Yunsan alors.
Non, puis Yunsan le sait bien, donc on vient pas pallier, au contraire, on vient compléter les dispositifs existants. Aujourd'hui, bon, de ce que j'en connais, les dispositifs ne couvrent pas toutes les problématiques rencontrées par les sportifs de haut niveau, puisque en fonction donc de leur sport, ils sont plus ou moins médiatisés, ils ont plus ou moins besoin de financement ou pas. Et donc nous, notre rôle là-dedans, hein, dans la reconversion des sportifs de haut niveau, c'est de les aider tout simplement, hein, et de compléter les dispositifs existants. Tout le monde n'a pas accès aux financements nationaux pour les sportifs de haut niveau, malheureusement. Donc on vient aider effectivement le sportif de haut niveau à différentes phases d'ailleurs, hein, de sa transition ou de sa reconversion.
Alors on parlait d'aide tout à l'heure, évidemment on va beaucoup employer ce mot, mais quand même Olivier, si vous êtes là, c'est que le constat quand même est compliqué, vous êtes d'accord avec ça?
Et oui.
Vous êtes aussi avec le professeur Jean-Claude Dupuis en train, avec cet observatoire de la reconversion des sportifs de haut niveau, d'identifier des problématiques et de proposer des recommandations. Est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer là-dessus?
Oui, alors c'est vrai qu'on a lancé l'observatoire il y a 2 ans. Alors je ne vais pas divulguer les résultats aujourd'hui, je les ai pas en détail, mais c'est vrai que les premiers résultats confirment que un certain nombre de sportifs de haut niveau, quand je dis sportifs de haut niveau, je mets à la fois là-dedans ceux qui sont listés au niveau national, mais le sportif professionnel aussi, voire le sportif qui gagne sa vie, on va dire, grosso modo avec son sport, mais qui n'est pas considéré comme un sportif professionnel. J'entends par là, par exemple, le footballeur qui joue en CFA, aujourd'hui il est payé par son club, hein, faut le savoir. Donc j'englobe aussi tous ces gens-là. Et donc les premiers résultats montrent effectivement que les sportifs de haut niveau ont des difficultés dans leur transition professionnelle, ça c'est clair. Mais pas uniquement dans la transition où je suis en fin de carrière, et puis je dois faire autre chose, mais aussi pendant sa carrière. Parce que on a l'exemple la semaine dernière d'une Angevine, hein, qui est équipe de France athlétisme et qui fait du marathon, et qui aujourd'hui a énormément de difficultés à allier à la fois son métier qu'elle fait actuellement et son sport de marathonienne et membre de l'équipe de France d'athlétisme.
Alors, une dernière réaction, pourquoi elle a tant de difficultés, Olivier? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et après, peut-être que ça lancera le débat sur le plateau.
Ouais, je ne vais pas parler à sa place, mais bon, j'ai pas mal discuté avec elle. Et en fait, elle arrive à un constat que lorsqu'elle préparait les championnats d'Europe, là, cet été, de marathon, donc sa charge de travail sportif a été doublée. Il fallait qu'en complément, elle assure son travail qui lui donne un salaire, c'est-à-dire qu'elle est coiffeuse 31 heures semaine, et malheureusement, au bout de 10 km, elle se blesse. Et quelque part, dans son constat, elle met ça sur le dos du manque de récupération qu'elle a pu avoir, et donc forcément, 31 heures semaine, quand on est coiffeuse, on est debout.
On aura des réactions sur le plateau. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être, avant de vous libérer, vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on pourra trouver les résultats de cet observatoire pour nos auditeurs?
Alors, on les trouvera sur le site d'Opcalia, hein, opcalia.com. Après, bon, je voulais juste faire une parenthèse. Je me permets, j'ai la parole, Julien. Nous, notre travail aujourd'hui, Opcalia, bon, c'est vrai qu'on est reconnu pour financer la formation des salariés d'entreprise, mais dans le cadre justement de la reconversion des sportifs de haut niveau, on propose un accompagnement qui va à la fois aider le sportif de haut niveau qui n'a pas défini clairement son projet de transition, c'est-à-dire l'aider à se poser la question, et voilà, qu'est-ce que je fais après, quelles compétences j'ai pu développer durant ma carrière sportive qui pourraient me servir dans mon projet professionnel, comment je rédige un CV en conséquence, Où est-ce que je peux trouver une formation? Comment je peux la financer? Voilà, j'ai une idée sur un métier, mais je n'ai qu'une idée. Donc pourquoi pas aller découvrir des métiers dans des entreprises adhérentes du réseau Opcalia. Et puis si je cherche un job, je peux aussi m'appuyer sur Opcalia pour trouver l'entreprise qui pourrait m'embaucher après, quoi, tout simplement.
Merci beaucoup, Olivier, pour ce témoignage.
Merci à vous.
À très bientôt.
Yunsan,
cet exemple-là de cette sportive qu'on connaît en plus, elle a quand même eu une double formation, puisqu'elle est coiffeuse. Et malgré cette double formation, elle va devoir lâcher son métier, hein, puisqu'il n'est pas compatible avec le plus haut niveau. Donc, on est dans une situation peut-être qui pourrait sembler bonne, et puis, en fait, elle va quand même pas y arriver. On était à notre dernière émission sur la formation. Là, il y a formation, et pourtant, ça n'est pas compatible, et elle n'est pas accompagnée, et elle ne voit pas comment elle pourra arriver encore au plus haut niveau, championne de France de marathon, et comment elle pourra se reconvertir dans un métier qu'elle ne peut plus pratiquer en raison du sport qu'elle pratique.
Là, Juliane, en tout cas, merci Olivier de rassurer les auditeurs que nous ne sommes pas du tout concurrence, mais vraiment en complémentarité, puisque tu le sais bien Olivier, j'ai mandaté en tant que président un de mes vice-présidents pour être représenté au sein de l'UDES et de la CRES, pour être justement présent à côté de vous, pour que vous puissiez nous accompagner vraiment dans, en termes d'économie sociale et solidaire. Alors ceci dit, pour ce cas de cette jeune marathonienne en préparation, et pour moi, c'est dans notre double projet, j'en discutais avec Stéphane tout à l'heure, c'est la difficulté d'un très bon entraîneur ou d'un bon formateur ou de qui que ce soit. Ce n'est pas de mettre en charge une performance, parce qu'effectivement, une charge sportive, ça, n'importe quel entraîneur de bas de gamme va savoir le faire. Un très grand entraîneur, c'est simplement savoir autoriser des temps de pause. Des temps de pause, c'est-à-dire prendre un objectif. Je prends un exemple, on a parlé tout à l'heure, Florence, sur Teddy Riner. Ben oui, il avait un objectif pendant ses 14 mois de blessure. Un seul objectif, son championnat du monde. On ne l'a pas présenté alors que l'opportunité était faite pour le championnat d'Europe. Il y avait une opportunité pour un championnat de France qu'il ne fait plus jamais, parce que simplement, l'objectif est que laisser le temps, l'autoriser à se poser pour un seul objectif, qui est son objectif mondial.
D'accord,
Youssala. Et là, c'est pour te dire simplement une chose, cette marathonienne, si on extrapole, il y avait deux choses. L'objectif de préparation, marathon, elle se blesse. Donc il n'y a pas une gestion coordonnée de son entraîneur avec l'entourage. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, la réussite d'un sportif, c'est la charge sportive, la charge sociale, l'environnementale, sentimentale, affective et tout le reste. Et là, il y a une partie qui a été occultée, des parties occultées. On n'a vu que la préparation physique. Et la préparation, je dirais, effectivement, et là, c'est dommage parce que peut-être qu'elle n'est pas totalement tracée et je ne l'ai pas vue, je ne la connais pas personnellement, c'est dommage parce que un des moyens qu'on a mis en place, justement, qui s'appellera bientôt, j'entends parler du Team 303, du Team Ligérien, qui est justement, tous athlètes de haut niveau vont être mis en place au niveau de la région Pays de la Loire. On va pouvoir trouver des financements qui les aident pour simplement dire, exempter de charge son entreprise par exemple, ou trouver une remplaçante pour que le temps de son préparation lui autorise la pause professionnelle, lui autorise une pause. Parce que ce n'est pas possible de travailler 31 heures debout, ce n'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible.
Merci beaucoup, Yunsan. C'est rassurant. Mais je vais donner la parole quand même à Marlène. Et dans ce labyrinthe, on remarque qu'il y a des aides financières du Conseil régional, de la DRJSCS, du ministère de la Ville, de la Jeunesse, des Sports, quand ils sont sous la même délégation, quand ils ne sont pas, on se demande ce qui se passe. Des aides des conseillers généraux. Évidemment, il y a des aménagements qu'il faut connaître. Il y a le CIP. Il y a énormément de choses pour les sportifs de haut niveau. Mais Marlène, qui vous explique ça quand vous cherchez ça? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il manque une sorte de guichet unique. Alors, est-ce que c'est le mouvement olympique qui doit être ce guichet unique? Il faut avoir fait Polytechnique pour pouvoir comprendre les aides auxquelles ils ont droit, alors qu'ils n'ont pas de formation, il y a un problème.
C'est vrai que moi, en tout cas, en tant que sportif de haut niveau, j'ai jamais sollicité d'aide, dans le sens où je me suis jamais vraiment penchée sur la question, et dans le sens où je savais pas qu'il y avait autant d'aide qui existait, je m'en suis rendu compte après. Alors effectivement, le guichet unique, ce serait une très bonne idée. Pourquoi pas sur le site internet du Cross?
C'est fait. C'était notre mission depuis 2 ans, première chose. Il y a un portail de haut niveau qui arrive et qui est fléché, et c'est le Cross qui le gère. Effectivement, là où tu as raison, et Marlène n'avait pas demandé, parce qu'il est très facile pour nous, mouvement sportif, de détecter des athlètes de haut niveau qui sont sur liste dans des structures. Ils sont en train d'être un pôle France, un pôle espoir. Voilà. On sait qui ils sont.
Et moi, j'en faisais pas partie.
Et
du coup,
toi, Marlène, tu étais parmi les 4, allez, des 10 sportifs. Et une chose qu'on s'est croisé professionnellement, c'est que je savais qu'il y avait des sportifs qui étaient là, mais je ne savais pas où ils habitaient, ils étaient où, je ne sais pas. Donc, la difficulté, Juliane, c'est justement les détecter pour les aider. Et effectivement, s'ils ne sont pas détectés et que c'est ce parcours de combattant un peu administratif, mais néanmoins important et professionnel, c'est compliqué parce que on voit bien que tu as cité toutes les subventions possibles et je vous promets qu'il y a plus de 10 aides possibles, mais encore, il faut les combiner ensemble. Combiner vraiment ensemble.
Ce serait excellent qu'on puisse passer par les clubs, par les entraîneurs, pour faire justement cette information. On centraliserait et ce serait super, parce que nous, on n'est pas au courant de tout ça. Ouais.
Et c'était ce que disait en coulisses à Stéphane, j'ai dit, c'est de la responsabilité du club. Et le problème, c'est que les clubs, c'est de la responsabilité des dirigeants. Ces dirigeants-là sont formés et informés par le comité olympique au départ, mais ça tombe dans l'oubli. C'est le problème de la formation, c'est le message passé.
Ça redescend.
C'est passé le message, sauf que ils oublient. C'est ça le problème.
On a deux personnes d'Audencia autour de la table. J'aimerais quand même une réaction de votre part un petit peu sur cette mauvaise gouvernance où on cherche des solutions et on est rassuré avec Yunsan en Pays de la Loire. Il faut voir si ça peut se dupliquer aussi dans d'autres régions. Mais Stéphane, ça fait longtemps qu'on essaie quand même de réfléchir aussi à cette gouvernance du sport. Pourquoi on n'arrive pas à être plus efficient, à mieux flécher les sportifs de haut niveau? Est-ce que finalement on ne devrait pas s'inspirer un petit peu du management d'une grande école, par exemple?
Oui, je pense qu'il y a effectivement ce qu'on disait, cette nécessité d'un guichet unique. Beaucoup d'acteurs autour de la table, vers qui se tourner, c'est effectivement la difficulté principale que l'on peut rencontrer. Donc s'inspirer de modèles où finalement on va retrouver un interlocuteur unique pour pouvoir guider, oui, c'est sûr.
Et c'est vrai que nous, à l'école, par exemple, si on prend pour nos étudiants, depuis des années, on a eu plusieurs personnes qui ont fait cette formation les dernières années et puis qui sont toujours suivies par le réseau d'Antia qui s'appelle Alumni aujourd'hui, avec 4 salariés de l'école qui suivent les cadres qui ont été formés chez nous, qui sont partis en entreprise, qui, quand des fois ils ont des trous d'air professionnels, ils reviennent. Est-ce que dans le réseau, on pourrait pas... Pourquoi il n'y a pas aussi dans ce mouvement sportif, entre sportifs de haut niveau, cette entraide pourrait aussi s'organiser dans le sens, Yagana, il bosse pour cette entreprise, Frédéric Belaubre, il bosse pour SNCF, on l'appelle, comment t'as fait toi pour entrer dans cette entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, les anciens qui ont réussi, eux, sportifs de haut niveau, qui ont réussi à être dans des entreprises, pourquoi ils ne seraient pas aussi les parrains des jeunes? Donc mettre un système de parrainage comme nous, on a dans les écoles de management. Toutes les grandes écoles font ça. Je pense que le mouvement sportif pourrait peut-être initier ce genre de choses. L'UNSAN, on pourrait commencer avec le comité régional. Les sportifs de haut niveau qui ont eu la chance d'avoir un métier quelque part dans la région ou au niveau France, on pourrait les contacter et leur demander est-ce que vous pourriez pas être le parrain de des sportifs actuels qu'on a en liste pour peut-être demain préparer un métier qui irait vers le vôtre s'ils choisissent, parce que je pense qu'il y aura des variétés. Voilà, c'est une idée.
Après, il y a des directions techniques nationales qui... excuse-moi, UNSAN. Il y a des directions techniques nationales aussi qui, je pense à la boxe française, qui sont très attentives, qui nous voient, nous sportifs de niveau, deux fois par an, pour voir où on va au niveau socio-professionnel, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle formation on souhaite faire, etc. Donc je pense qu'il y a aussi, au niveau national, quelque chose d'important à faire. Et puis, on pourrait parler de la législation, parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de la législation.
On va en parler dans un second temps. Et effectivement, avec l'initiative de Thierry Braillard sur le statut du sportif de haut niveau, parce que là, je pense qu'on tourne autour. Mais moi, j'ai l'impression quand même Marlène, dans votre fédération, est-ce qu'on ne s'intéresse pas là aussi au haut de la pyramide? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux plus connus, aux champions du monde, et finalement, les autres, peut-être même aussi au sein de l'école, mais au sein de l'entreprise, dans le secteur professionnel, est-ce qu'on ne va pas aider finalement ceux qui sont en haut et qui peuvent aussi être intéressants pour l'employeur? C'est ça la problématique.
C'est clair, c'est l'image là. Tout à fait. Je me faisais souvent la réflexion, avant de devenir championne du monde, la direction générale du CHU était contente que je pratique, mais ne me donnait pas forcément de vacances supplémentaires ou de temps détaché pour aller en compétition. Une fois que je suis devenue championne du monde, j'ai eu le droit et j'ai eu l'accès à ça. Sauf qu'effectivement, j'en aurais eu besoin avant, peut-être pour devenir peut-être un an plus tôt champion du monde ou voilà.
Donc, voilà, des champions du monde, UNSAN, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça le problème. Alors, on était tout à l'heure sur le 7003 sportifs de haut niveau, je pense.
Il y a que 600 les champions. Il y a 600 champions, 700 champions. Voilà. Et effectivement, c'est 10%. Et je ne vous cache pas, pour faire un champion, je prends une discipline que je connais bien aussi, pour prendre le judo, pour voir un ou deux champions d'Europe, c'est 10 à 15 partenaires derrière qui sont du même niveau. C'est pour... si t'es Derineur et champion du monde, c'est parce que c'est son second, troisième, quatrième, cinquième, et c'est aussi des champions d'Europe, etc. Donc c'est des gens qui sont compétents. Mais c'est vrai que je ne fais aucun doute sur la reconversion de Teddy, parce qu'elle est déjà prévue, y compris sa retraite, parce que propre du judo était quasiment, regardez bien, où sont nos champions, ils sont tous placés soit comme cadre technique, comme DTN, ils sont placés partout. Pourquoi? Parce qu'on a une cellule de réflexion. Mais il est néanmoins vrai que les deuxièmes, troisièmes couteaux le sont aussi, mais à des postes moins prestigieux. Mais si on prend d'autres disciplines, en dehors de leurs champions, les secondes, troisièmes, quatrièmes, mais sont un peu oubliés, mais ils sont aussi méritants.
Mais oui, ils sont oubliés. Ils sont oubliés du monde de l'entreprise. Moi, je les vois, les CIP que signent La Poste, la SNCF, EDF. C'est Alain Bernard. J'oublie son nom, qui marche, Johan Diniz, à La Poste. Donc,
Ils sont venus sur le triathlon d'Antia La Baule. Vous citez deux personnes qui sont venues.
Excellent. Alors, c'est le petit moment de promotion. Donc.
Alain Bernard et Diniz sont venus sur le triathlon d'Antia La Baule à deux reprises et donc d'ailleurs j'ai fait un petit peu de promotion parce que le mois dernier ça s'est déroulé à La Baule sous un ciel clément et nous avons eu entre autres Frédéric Belaubre qui était là et qui est lui-même qui a fait une très bonne reconversion grâce à la SNCF, mais aussi Tony Moulet qui est connu, qui ce sont quand même deux grands champions de triathlon et lui aussi il est prof d'éducation physique dans le sud et donc cette organisation est faite par les étudiants d'Odentia qui, chaque année, depuis 27 ans, proposent autant du haut niveau que du sport pour tous et pour les enfants pour découvrir ce sport qui est magnifique. Trois sports, je rappelle.
Merci beaucoup. On va couper malheureusement cet élan par une pause musicale. Amandine ?
Oui, on reprendra le débat après Rock and Roll Show des Birth of Joy.
Castle, Twister Rolls, Queen of the Ball. She wears the crown of emerald gold. So keep me waiting, keep me waiting. So keep me waiting.
Of Joy Rock'n'Roll Show, ça déménage tel un uppercut de Marlène Sislik.
Je suis pas bonne en point, mais 800 pieds moi.
Marlène, vous vouliez ajouter un commentaire tout à l'heure sur les champions du monde.
Oui, parce que vous disiez tout à l'heure que les champions du monde ont souvent des facilités, et moi je voulais revenir sur un exemple qui me touche de près, un collègue champion du monde, donc de savate boxe française, excellent, qui doit se battre avec son entreprise pour pouvoir participer au prochain championnat du monde, parce que l'entreprise a besoin de lui à ce moment-là, et qui ne fait aucune concession. Donc on a aussi quand même des entreprises, parce qu'il n'y a rien qui... Voilà, certaines entreprises qui ne sont pas forcément toujours conciliantes, même avec des champions du monde. Voilà. Donc voilà, il y a encore du travail à faire, et certaines personnes doivent se battre pour aller en entraînement, en stage équipe de France, tout n'est pas acquis. Donc,
effectivement, mais l'entreprise garde aussi son rôle, hein. C'est-à-dire qu'avant tout, elle veut des compétences,
et
effectivement, parfois, elle est obligée de trancher comme ça. C'est aussi une réalité du marché. On a, mais j'espère que ça amènera des commentaires à ma réflexion aussi. Alors, on va quand même réfléchir à cette question de la notoriété et de l'utilisation des sportifs, Stéphane. On voit par exemple que des diplômes tels que Sciences Po utilisent des sportifs de haut niveau dans leur rayonnement. C'est une véritable question quand même. Comment se positionne Audencia sur ça?
Sur ça, je parlais de ce que je fais. Effectivement, Audencia Nantes, j'utilise... Et encore, j'aime pas le terme, mes étudiants, et quels qu'ils soient, pour faire la promotion du programme dans lequel ils sont impliqués. Si effectivement ils sont aussi sportifs de haut niveau, évidemment, ça va apporter plus. Mais c'est pas tant par leur étiquette de sportifs de haut niveau que je les utiliserai que par leur personnalité. Et je les accueille parce qu'ils veulent faire acquérir une double compétence en management. Donc c'est vraiment ça, et je ne vais pas les chercher pour leur notoriété, mais bien c'est eux qui viennent nous voir pour acquérir une compétence.
Une autre remarque sur cette idée de...
Oui, je trouve qu'il y a des entreprises qui arrivent vraiment bien à valoriser ce qu'ils font pour les sportifs de haut niveau. La SNCF par exemple, qui suit 30 sportifs sélectionnés de très près qui sont quasiment détachés, parce qu'il y en a en équipe de France de boxe française qui sont quasiment essentiellement détachés à leur sport. Je trouve, je ne sais pas si vous voyez, mais ils font des très belles publicités, ce qui permet pour l'entreprise de véhiculer des valeurs très positives. Voilà. Après, c'est donnant-donnant. Enfin,
moi, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil de communication interne aussi et un outil de communication externe pour ces entreprises?
Complètement. Les sportifs jouent le jeu, c'est-à-dire que il y a beaucoup de photos qui sont prises d'eux, qui sont véhiculées en carte postale. Ils ont des formations type plusieurs fois par an, où ils se retrouvent tous ensemble avec des très bons enseignants. Enfin, c'est quelque chose vraiment de très sérieux. Ouais.
Okay,
et on c'est est, donnant-donnant.
On est encore là dans les bons exemples, les bonnes pratiques, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Vous allez je voulais rebondir sur la SNCF, parce que moi, j'ai, en fait, sur le triathlon d'Antialaboul, j'étais en négociation avec eux par rapport à... voilà, il y avait une dynamique, ça créait une dynamique interne en fait, parce qu'il venait l'entreprise, la SNCF, il y avait des concurrents, voilà, des cheminots qui venaient faire la compétition aux côtés des triathlètes. Donc là, c'était Frédéric Belot qui est à la SNCF, qui est agent et qui venait courir avec, et aussi en e-sport, très investi en e-sport. Mais il y a la RATP, EDF, il y a d'autres entreprises.
Alors là, Yunsan, pardon, mais on va revenir quand même au stade. Parce que on se raconte depuis tout à l'heure finalement des cas pratiques assez isolés. Mais Thierry Braillard pose en ce moment, et je sais qu'il lance en plus une mission au CDES, au Centre d'économie et de droit du sport, de Jean-Pierre Caracchio. Il leur confie quand même l'analyse de ce statut du sportif de haut niveau. C'est incroyable quand même qu'il n'y ait pas aujourd'hui quelque chose qui soit plus fort, plus marqué, quand on voit quand même le rayonnement, la possibilité de rayonnement par le sportif de haut niveau et aussi pour le sportif de haut niveau, pour son bien-être évidemment.
Complètement, et Jen, tu as raison, puisque j'ai parlé tout à l'heure de ce CAN, de ce comité d'athlètes de haut niveau, qui n'existe que depuis 2 ans. Donc nous sommes au balbutiement de ce statut. Parce qu'effectivement, les lois, les articles, les décrets commencent à venir pour les aider. Il y a effectivement une aide et un fléchage des finances, un fléchage également dans la formation qu'on a dit tout à l'heure, un fléchage dans les concours d'entrée, mais un fléchage également dans des partenariats et des mécénats et ou des stratégies de salariés d'entreprise. Alors, effectivement, ça m'attriste quand certaines entreprises, mais Julien t'avait bien souligné, c'est aussi une entreprise, c'est fait pour être une entreprise, pour gagner de l'argent. Donc, ils sont contents d'avoir un champion du monde, ils sont contents d'avoir un bon manager, hein, mais bon, ça s'arrête là, et ça, c'est leur politique à eux. Par contre, il y a d'autres entreprises plus institutionnelles, comme le GDF, comme l'EDF, comme la RATP, la SNCF, par exemple. Là, ils sont capables de faire de la com' avec, mais pas la com à n'importe quel prix, puisqu'ils font quand même des cahiers des charges professionnels. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas quelqu'un comme a très bien dit Stéphane, on ne prend pas quelqu'un parce que c'est un champion du monde. On le prend parce qu'il est champion du monde, et en même temps, il a un BTS, oui, ou un master, ou un master 2, ou un MBA. Voilà.
Et ceux que je connais étaient déjà dans l'entreprise, quand ils ont obtenu le statut. Ils étaient depuis plusieurs années dans l'entreprise.
Accompagnés. Donc on les accompagne. Donc c'est la capacité des grandes institutions. Ouais. C'est la différence entre une petite entreprise, une PMI, un PME, et une grande institution.
Merci beaucoup, Yunsan, pour ce témoignage. On a en ligne Monsieur Pierre Maire. Bonjour, Pierre.
Bonjour à tous.
Alors, Pierre Maire, vous êtes président d'un fonds. On a beaucoup parlé d'aide pour le sportif de haut niveau et de ses difficultés et aussi peut-être de problématiques dans le fléchage de ces aides. Mais je sais que vous êtes une véritable bonne pratique avec votre fonds mécène élite Anjou que vous présidez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer un peu ce fonctionnement qui intrigue dans toute la France d'ailleurs? Parce que je sais que c'est très atypique et une force aujourd'hui en Maine-et-Loire.
Alors, c'est une émanation en partie de la CCI du Maine-et-Loire et dans la ligne de ce qu'on avait déjà fait avec Mécène-et-Loire, mais plus particulièrement fléché sur les sportifs et pas tellement avec des aides, et très peu avec des aides financières, mais surtout avec une mise en contact avec le réseau des entreprises. Et un travail a été fait qui a duré presque 1 an avec des spécialistes pour pouvoir proposer aux sportifs de nous exposer toutes leurs contraintes et que celles-ci soient ensuite mises à disposition d'entreprises volontaires qui choisissent, qui une fois qu'ils ont intégré ces contraintes, sont prêts à rencontrer le sportif pour qu'il puisse mettre en avant toutes ses qualités et ne pas commencer son entretien par dire « j'ai besoin de temps de récupération, j'ai besoin de mes vendredis pour partir en compétition, etc. » Tout ça, ça a déjà été intégré en amont par Mécène Élite Anjou et par le travail qu'on a fait. Et donc, le sportif peut se mettre en avant avec une entreprise, vraiment mettre en avant les qualités qu'il est capable de mettre à la disposition de l'entreprise, à la fois, comme on le disait un peu précédemment, pour une avec des valeurs en communication interne et externe.
Alors, comment vous identifiez, Pierre, les sportifs ? Est-ce que, là aussi, vous allez vers les plus connus ou c'est quelque chose qui est ouvert à tous les sportifs de haut niveau ?
C'est ouvert à tous les sportifs de haut niveau de catégorie nationale. Sinon, on ne pourrait pas... Il y a un moment donné, il faut quand même... on n'a pas un potentiel qui serait suffisant pour satisfaire à toutes les demandes. Mais au niveau national, on a déjà bien des sportifs dont certains sont vraiment, et ça on n'en a pas assez parlé avant, il y a des gens qui sont en déshérence totale, c'est-à-dire qui sont complètement obnubilés par leur sport et n'imaginent pas qu'un jour ils seront obligés de rentrer dans la vie active normale et que s'ils n'ont pas un minimum de préparation, un minimum de potentiel, ils vont se retrouver avec des grosses, grosses difficultés. Et à un âge où d'habitude, tout le monde est déjà installé dans la vie professionnelle.
Donc vous jouez aussi le rôle d'information, justement. On parlait tout à l'heure de guichet unique. Et maintenant, on a Yun San Meas qui nous a dit qu'on allait avoir sur le site du Comité Régional Olympique Sportif Français quelque chose qui va pouvoir permettre un peu de tracer ça pour les sportifs. Mais vous jouez aussi un rôle d'information, d'accompagnement. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors, on joue un rôle, il y a bien sûr le réseau de l'entreprise disponible, mais il y a aussi ensuite, par l'intermédiaire du GDOS au départ, et puis ensuite toutes les fédés et autres, qu'on retrouve et qu'on rencontre. Et entre autres, on a une rencontre tout à fait particulière pour initier et les entreprises, pour trouver encore plus d'entreprises autour de nous. Ce sont les entreprises sportives des grands clubs du département, à qui on va présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mécène Élite Anjou et les atouts que ça peut amener pour une entreprise.
Merci. Merci beaucoup Pierre Maire. Vous aviez quelque chose à rajouter ou...
Non, simplement que là c'était la partie entreprise. La partie sportive, elle est encore à travailler parce qu'on n'est pas encore très connu. Il faut que les clubs soient un vrai relais pour nous. Je crois qu'il faut que les clubs, ils ont une responsabilité dans ce domaine-là. Certains l'ont et la mettent en avant. D'autres ont des efforts à faire dans ce domaine.
Merci beaucoup, Monsieur Pierre Maire. Yun San Meas, comment vous accueillez ces types d'initiatives, justement ?
Avec les bras ouverts, et j'espère que Pierre Maire aura le plaisir de le rencontrer, puisqu'il est déjà en contact avec le président Jean-François Frémont du Comité départemental olympique et sportif de Maine-et-Loire. Donc nous travaillerons ensemble, puisque dans le cadre de réforme territoriale, nous sommes appelés dans cette configuration.
Alors, on met l'entreprise quand même maintenant au cœur de cette reconversion. J'ai l'impression quand même, et j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, je pense que j'étais un peu provocant, mais j'espère que ça va vous faire réagir. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'entreprise de s'adapter aux sportifs de haut niveau ? Marlène ?
Il ne faut pas m'interroger sur ça parce qu'en fait, j'avoue que moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce serait quand même bien qu'il y ait plus d'égalité entre les sportifs de haut niveau, peu importe qu'ils travaillent en entreprise, qu'ils travaillent dans la fonction publique territoriale, hospitalière ou d'État. Donc, que les sportifs s'adaptent ou pas, ça me pose problème. On devrait s'adapter à un sportif de haut niveau. Voilà. Après, il faut que la loi légifère ça et qu'il y ait une compensation financière pour les entreprises, bien sûr, qu'elles ne soient pas perdantes à prendre un sportif de haut niveau. Mais aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à mettre de l'équité, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi, dans la fonction publique hospitalière, je n'ai le droit à rien, alors que mon collègue qui est professeur de PS est détaché à 50%. Voilà. On est tous les deux en équipe de France. Donc, il y a un moment donné où je pense que les choses vont devoir se poser, il va falloir qu'on travaille sur l'égalité.
Alors, merci beaucoup. Et des réactions à ce petite remarque bien placée de
Tout à fait, ça fait exactement partie des quatre missions de cette commission athlète de haut niveau, dont notamment faire sortir un article de loi qui permet justement, tout comme un représentant syndical, comme un représentant professionnel, un représentant élu, il est élu dans le sens où il a grimpé les échelons pour devenir champion du monde, champion olympique, ou etc. C'est une manière de reconnaître son statut, parce qu'effectivement, on reconnaît bien, sur liste, la sélection est facilement faite, il y a 7300 athlètes de haut niveau sur liste, ceux-là ont droit, c'est aussi simple que ça, déjà par eux. Commencez par eux.
Est-ce que la fondation Henri Séandour, qui a démarré il y a 2-3 ans, j'ai vu que dans ces quatre grandes phases, donc le sport handicap, sport santé, environnement, mais aussi il y a une phase, un objectif qui est le sport de haut niveau. Est-ce qu'ils ont prévu ça, d'aller chercher des moyens pour aider ceux qui sont en reconversion ou pas ?
Tout à fait. Il y a la convention qui s'appelle le Comité Olympique ADECO. Donc,
j'ai vu ça aussi.
Et ça rentre dans ce cadre-là.
C'est la fondation Henri Séandour.
Tout à fait, ça rentre dedans.
Merci beaucoup pour cette information. On voit que des choses se passent en France, mais avant une pause musicale quand même, je vais vous dire peut-être que la France est un petit peu en retard sur ce sujet par rapport à certains de ses voisins européens. Et si on va déjà au Royaume-Uni, alors c'est un autre système de gouvernance, évidemment, mais il y a des programmes, ça va peut-être faire rêver Marlène, ou se dire qu'elle aurait dû épouser un Anglais ou un Allemand ou un Espagnol. Mais on voit au Royaume-Uni un programme qui s'appelle Performance Lifestyle, qui développe les compétences des athlètes de haut niveau avec un statut bien défini pour s'entraîner. Alors évidemment, avec de l'argent aussi qui vient du secteur privé. On sait que UK Sport aussi est différent dans sa façon de regarder les athlètes de haut niveau. Mais aussi, on sait, attention, c'est un système qui marche bien, mais qui a aussi ses défauts. On sait aussi qu'ils choisissent certains sports par rapport à d'autres pour avoir aussi plus de résultats, de médailles aussi, parce qu'on n'a pas parlé des médailles énormément aujourd'hui, mais c'est un sujet. Je voulais souligner quand même aussi Vattenfall, une société privée en Allemagne qui investit énormément sur les sportifs de haut niveau et les jeunes talents et qui joue un rôle d'informateur, d'information avec des tuteurs. On en parlait tout à l'heure pour les champions. Alors ça existe. Your Name for Germany, alors un titre anglais, mais c'est pourtant des Allemands. Une fondation, on parlait de la fondation Henri Séandour, mais les Allemands aussi ont créé une fondation qui implique tous les citoyens. Et c'est intéressant quand on parle de citoyenneté, c'est-à-dire que, un peu comme les modèles de musique, les citoyens peuvent faire des dons aussi pour aider des sportifs qu'ils repèrent. Et ça, c'est pas mal. On voit que sur le plateau, ça réagit aussi en Espagne. Alors, je parle pas du tout espagnol, je suis désolé. Consejo Superior de Deportes, c'est le ministère des sports, avec un programme vraiment spécifique et performant de réinsertion des sportifs de haut niveau. On le voit aussi, on peut citer énormément d'exemples. Ça ne veut pas dire qu'on fait mal en France, mais ça veut dire qu'on est quand même face à une gouvernance assez complexe et assez compliquée. Je vous laisse sur cette réflexion avant la pause musicale. Amandine me fait des yeux noirs, donc je t'en prie, Amandine, pour annoncer cette pause.
Merci. Donc, on va écouter quelque chose de beaucoup plus calme que Burst of Joy. C'est Buzz Earning de Jungle. We'll be right back.
Radio Nantes. On va quand même tenter, on est pris par le temps, mais un tour de table avec un vœu, un souhait pour les sportifs de haut niveau. Et je vais commencer par Yoon San.
Bon, bah simplement, un triple projet à réussir et c'est de la responsabilité des clubs. Et je compte sur eux pour réaliser ce projet.
Marlène.
Une très belle loi pour promouvoir l'égalité de tous les sportifs de haut niveau.
J'espère que le secrétaire d'État Braillard et le ministre Caner nous écoutent. Une dernière remarque, un vœu, un souhait.
Moi, j'aime bien l'idée des citoyens qui checkent sur Internet pour leur donner des moyens, et comme pour les chanteurs. Moi, je trouve ça super. C'est les Allemands ?
C'était des Allemands, hein, je crois. Stéphane.
Mon vœu, intégrer plus de sportifs de haut niveau dans mes programmes.
Yes.
Ça va le faire.
Amandine.
Moi, c'est l'idée du guichet unique, un lieu unique d'information pour les sportifs de haut niveau.
Et on sait qu'on le retrouvera sur le site du Cross en plus, donc c'est bien. Merci beaucoup et l'agenda tant attendu.
Et toi, Juliane, qu'est-ce que tu souhaites ?
Moi, j'aurais souhaité être sportif de haut niveau.
Ah ! En quelle discipline ?
J'étais prof de tennis, mais...
Tennis, ouais. Voilà. Ça
mais
va pas mal.
Mais j'adorais jouer au foot, donc je me suis fait mal.
Et t'as fait de la boxe française aussi.
Ah oui, j'ai un petit palmarès
c'est
en boxe française.
C'est un multisport, vrai prof de PS.
Mais en universitaire.
Mais c'est très bon, il y a du très bon niveau.
Donc comme je suis mince, et j'avais des gars très petits face à moi, donc je marquais des points. Ben voilà. Mais bon, voilà, c'est une autre question.
Je vous coupe dans ce débat. On va finir avec l'agenda pour cette fin d'année 2014, l'agenda de sport et citoyenneté. Alors le 13 et le 14 novembre, il y a City Event à Paris, donc sport et citoyenneté est partenaire. Ensuite, le 1er et le 2 décembre, il y a le Forum européen du sport à Milan. Et pour terminer, le 5 décembre, Sport et Citoyenneté organise une table ronde au Palais du Luxembourg sur la thématique du sport et du développement durable.
Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite de l'aventure.
Think Tank, Wissenschaftsausschuss.
C'était Sport et Citoyenneté. Retrouvez cette émission en podcast sur euradionantes.eu.